Et vous me rappellerez si j'ai oublié votre question concernant la localisation de l'endroit où cette révélation a été donnée. Tout le monde a un livre de Dvarim. Oui? Non? Oui. Sinon, il y en a d'autres là. Alors, nous allons lire les premiers versets. Il s'agit des premiers textes du livre de qui s'appelle en hébreu Dvarim, par le premier mot du premier verset sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qu'on appelle en français le Deutéronome. C'est dérivé d'un mot grec qui traduit à peu près l'expression talmudique de Mishneh Torah, qui signifie répétition de la Torah. Et vous voulez fermer là? Parce que j'ai un head. Et en grec, d'où vient le mot français de Deutéronome, ça a à peu près le même sens. Et donc la principale question première qui se pose à la lecture du Deutéronome, du Sefer Dvarim, c'est pourquoi il a fallu que Moïse répète la Torah. En fait, comme vous le verrez d'ailleurs, je pense qu'il reste encore des parashiot rédigés, le Kimitzion.
Oui.
Vous verrez dans le texte. Ah non, ça sera dans la parasha de Vayetranan que vous lirez cela. En fait, c'est pas exactement une répétition littérale. C'est une retransmission de la même Torah, mais avec un ensemble de différences qui viennent de ce que Moïse va parler à la deuxième génération d'Israël du temps de la sortie d'Égypte. La première génération a eu la première révélation de la Torah. Je veux dire, la génération d'Israël qui est elle-même sortie d'Égypte, qui a eu l'expérience des événements de la sortie d'Égypte, pour laquelle il n'est pas nécessaire de motiver en se référant à ce qu'a été, dans le détail en tout cas, à ce qu'a été une expérience vécue de leur part. Alors que la deuxième génération, celle d'Israël qui est née dans le désert et qui n'avait pas forcément, même si par oui dire ils faisaient partie des mêmes familles, n'avaient pas forcément eu expérience personnelle des événements de la sortie d'Égypte, et donc la répétition de la Torah pour eux qui allait entrer dans l'histoire d'Israël qui commence sur la terre d'Israël était nécessaire d'être reprise et d'être réexpliquée avec une motivation qui tienne compte du fait que ce sont la génération des fils, alors que la dernière génération des pères, celle de la sortie d'Égypte, elle, fait partie d'une sorte de préhistoire par rapport à la génération des fils qui, elle, est entrée en Israël. Et il faut être attentif à ce que nous avons pendant 2000 ans étudié à ce sujet, parce que nous sommes subitement, 2000 ans après, dans une situation très analogue. Il y a une génération des pères qui fait déjà partie de la préhistoire de l'Israël des fils, qui est l'Israël israélien. J'ai l'habitude de dire, mais c'est un sujet pour lui-même et qu'il faut étudier pour lui-même. Il y a autant de différences entre les Juifs de diaspora qui font encore partie de cette préhistoire juive de l'État d'Israël et les Israéliens qu'il y a eu de différences entre la génération de la sortie d'Égypte qui est restée au désert et la génération de leurs enfants qui, elle, est entrée dans le pays d'Israël. J'espère que vous percevez à quel point l'analogie est importante et à quel point donc tous les enseignements qui ont été donnés par les maîtres de la tradition au sujet de cette différence entre les quatre premiers livres de la Torah entendus par la génération des pères et le cinquième livre entendu par la génération des fils reprennent un sens contemporain important. En particulier, ça se renvoie à un enseignement préfiguratif, si j'ose dire, que la Torah nous a donné dans le livre de Shmout, entre la manière dont Dieu s'est révélé aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais principalement Abraham, et la manière dont il se révèle à Moïse, six générations après, au temps de la sortie d'Égypte. C'est un sujet pour lui-même très important, je le rappelle très brièvement, ne serait-ce que sous forme de rubrique. On apprend dans ce verset, qui est le premier et le deuxième verset de la paracha de Vaera, dans le livre de Shmout, que Dieu se révèle au patriarche en tant que Dieu de la promesse. Et le nom qui est dévoilé, c'est le nom de El Shaddai, alors qu'il se révèle à la génération des fils qui vont entrer dans l'histoire d'Israël après la sortie d'Égypte, sous le nom de Yudke Vavke, sous le nom de Havaya, sous le nom de Hachem, Dieu qui réalise. Et c'est cette analogie que nous sommes en train de vivre. Les Juifs de diaspora ont vécu le temps d'une promesse, alors que les Israéliens vivent le temps de la réalisation. Et tout cela induit énormément de différences, en tout cas qui font comprendre les tensions et les conflits qu'il y a entre l'idéologie juive, surtout diasporique, et déjà la doctrine israélienne de la Torah. Nous devons au Rav Kook d'avoir enseigné cette différence. Si nous n'avions pas eu l'enseignement du Rav Kook, nous serions en plein désarroi, ne sachant pas comment diagnostiquer cette analogie entre la génération de la sortie d'Égypte qui a vécu la promesse et qui n'a pas connu la réalisation jusqu'au bout, puisqu'elle a préféré rester dans la yeshiva du désert, si j'ose dire, et la génération des fils qui, elle, a vécu la réalisation. Alors vous voyez à quel point nous sommes confrontés à une situation dramatique, et si nous n'avions pas eu ces guides de la génération précédente, eh bien nous aurions énormément de, j'ai dit désarroi, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être perplexité. Le doute, enfin, ou la moitié d'un doute, comme je vous dis souvent. En tout cas, pour revenir au sujet. Eh bien, il va y avoir une question première, c'est le changement de style du récit. C'est Moïse qui transmet la révélation, il la transmet tant dans les quatre premiers livres que dans le cinquième, mais il la transmet dans les quatre premiers livres en style indirect. Et Dieu m'a dit de vous dire. Tandis que dans le cinquième livre, il va parler à la première personne. Alors nous avons tout de suite rencontré ce sujet. Je pense que c'est cela qui vous a fait penser à la question que vous avez posée, qui a, je m'excuse du terme, je n'ai pas préparé la réponse, mais c'était mal formulé. Qui a écrit, personne n'a écrit. Ça a été mis par écrit bien plus tard, mais bien plus tard, à la fin des 40 années du désert, par Moïse. Mais personne n'a écrit ce livre. Je pense que c'est clair la différence de vocabulaire. Vous voyez à quel point le français peut poser des questions pièges. Entre écrit et mis par écrit, c'est un abîme. Un de mes maîtres, Jacob Gordin, Zichron al-Livracha, avait l'habitude de dire « La Bible, c'est le seul livre que personne n'a jamais écrit, qu'aucun homme n'a pu écrire. » Je dirais même qu'il disait ça un peu autrement. Il disait « C'est le seul roman policier qu'aucun homme n'a jamais pu écrire. » Et il expliquait, parce que dans ce livre, l'accusé, c'est le lecteur. C'est clair. Effectivement, il y a une énigme policière. Qui est accusé et de quoi? Et ça commence par un péché originel, par les péchés d'Israël. Et finalement, c'est le lecteur qui est le héros du récit. Et je crois qu'effectivement, ça suffit pour comprendre ce qu'il disait. Personne n'a jamais pu écrire un livre qui a une portée universelle aussi colossale et où le héros, c'est le lecteur. Parce qu'en fin de compte, le lecteur, c'est le héros du récit, c'est moi, c'est vous, un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et le plus fort, c'est que c'est vrai, c'est que c'est comme ça. Donc, je reviens au sujet. Alors, on lit les premiers versets. Vous arrivez quand même à m'entendre malgré le sujet. Ele advarim, voici les paroles, Asher diber Moshe, que Moïse a parlé, et j'ai traduit avec le verbe parler, puisque c'est la traduction habituelle du mot en hébreu, dvarim, parole, et diber, daber, parler. Et daber, c'est parler de manière immédiate, diber, c'est parler fortement. Quoi qu'il en soit, il y a ici un sujet important, très rapidement entre parenthèses, quand c'est le verbe « amor », pas en italien, en hébreu. Le verbe « amor », d'ailleurs c'est pas loin, qui est employé, et « imarot » ou « imerot »,« ma'amarim », c'est parler de manière douce, avec amour, avec plus d'amour. Tandis que « diber », c'est en général exhortation, admonestation, réprimande, ordre, parler fortement. Il y a un accent supplémentaire dans Diber qu'il y a dans Amor. Je vous cite le verset entre parenthèses qui éclaire ce sujet. Ko tomar lebet Yaakov, ou tout d'abord les Beth Israël. Un des Midrashim, je dis bien un, explique ce verset. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu ordonneras aux enfants d'Israël que la maison de Jacob, c'est les femmes. C'est pourquoi d'ailleurs les yeshivot pour femmes, il faut mettre yeshivot entre guillemets, c'est des ulpenot de Bate Midrash. S'appelle Bet Yaakov ou parfois Bet Rivka, Bet Rachel, suivant la concurrence des tendances. Et ta guide, l'emné Israël, et tu ordonneras aux enfants d'Israël, c'est les hommes. Ta guide, c'est caché que guidine, ça veut dire avec le fouet si c'est nécessaire. Ça, c'est guidine. Okay? Tandis que Tomar, c'est gentiment, avec séduction, si c'est nécessaire. C'est clair la différence, mais c'est un des midrashim. Alors, donc, on est averti que ce sont des paroles dures. Hachem libère Moshe, que Moïse a parlé, El Kol Israël, à tout Israël, Be'ever HaYarden, en deçà du Jourdain, c'est-à-dire en Transjordanie, dans le sens français du terme. D'où votre question. Hachem libère Moshe. Et c'est un verset, je vais citer d'autres versets, c'est toujours Moïse qui parle, puisqu'il est le porte-parole. Mais les autres versets disent sur l'ordre de Dieu, ou bien que Dieu a dit par l'entremise de Moïse. Mais là, c'est pas dit. D'où la question, mais surtout, je crois, la question est induite par le fait que le style est à la première personne. Be'ever HaYarden, en deçà du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine. Je crois que Arava, le mot exact, serait la steppe, d'ailleurs. Mais je ne sais pas, il faudrait qu'un géographe traduise plus exactement. En tout cas, pas la toundra. Moul Souf, en face de Souf, Ben Paran, entre Paran, c'est pas le boulevard de Ramat Eshkol là-bas, mais entre Paran, ou Ben Tofel, et Laban, et Haserot, et Dizahar. J'ai pas traduit les termes, mais chaque fois nous sommes renvoyés à une situation où il y a eu révolte, faute de la génération du désert. Et Rashi, là je me branche un peu sur votre question, et Rashi, citant les Midrashim, le Talmud, explique que par pudeur pour Israël, par, je cherche mon français, ma non, je cherche un autre mot, par respect pour l'honneur d'Israël, au lieu de rappeler les circonstances qui méritaient ces admonestations, Moïse, enfin le texte, s'est borné à rappeler les endroits où ça s'est passé. Je vais vous lire d'ailleurs le Rashi, suivez avec moi. Eh bien, c'est le premier Rashi. Prenez le premier Rashi, on lit ensemble. Les filles, She'en Libreto Hachot, parce que ce sont des paroles de réprimande, ou Manakan, et que Moïse a énuméré ici, Kolamekomot, tous les endroits, She'ichaisu Lifnamakom, où ils ont irrité Dieu, Bahen, dans ces endroits, les Fichar, c'est pourquoi, Satam et Adbarim, il n'a parlé que par allusion. Satan, c'est pas exactement allusion, mais en hébreu on dit il a fermé les paroles, il a plus que résumé, il les a rendues, il a un peu occulté ce qu'il voulait dire. Satam, Satum, Veiskiran Beremes, et il les a mentionnés par allusion, Remes c'est allusion, Mipene Kebodan chez l'Israël, pour tenir compte de la gloire, de l'honneur d'Israël. Oui, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je me souviens d'un enseignement du Rav Avraham Epstein, qui était d'ailleurs le maître de Adichtenzal. Je ne sais pas si vous savez ça. Non, vous savez qui est Adichtenzal. Mais vous ne savez pas quel était son maître en Talmud, c'est Avraham Epstein, un des fondateurs de Gush Etzion. Et il citait le Magid de Douvna. Le Magid de Douvna, je crois que les Ashkenazim disent Douvno, était un très grand darshan. Et il allait de ville en ville pour expliquer ses drachot. J'ose pas dire sermon, ça fait trop bref, homilétique. Et un jour, il est arrivé en retard le vendredi soir au village où il devait prêcher. Et alors, le rabbin avait attendu, comme le maguide n'arrivait pas, le rabbin est monté en chair. Et le maguide arrivé en retard, s'est assis au milieu du peuple. Et il a écouté la dracha du rabbin. Et le rabbin, comme en général savent faire les rabbins, emporté par sa ferveur rabbinique, s'est mis à invectiver son kahal et vous êtes, et vous n'avez pas honte. Alors le Maguide, sidéré, écoute. Il s'est dit, bon, pourvu que moi je ne suis pas comme ça quand c'est moi qui parle. Parce que vous savez, en général, les rabbins sont emportés et ils reprochent au présent les défauts des absents. Vous avez un Alors, à la fin, il s'adresse à un juif qui était à côté. Il lui dit, dis-moi, ce rabbin, il a des filles à marier. Alors, je dis, oui, il a des filles à marier. Elles sont mariées. Il dit, non. Il a fait une prière, il dit, mon Dieu, marie-lui ses filles et qui cesse d'engueuler les juifs. Bon, je reviens au sujet. C'est l'histoire du Maguide de Douai. Les admonestations. C'est clair, vous avez compris. Alors, je retourne au sujet. Tous ces noms, eh bien, il faut se référer au récit de ce qui s'est passé dans le désert et se rappeler quelles ont été les occasions de révolte, les occasions, disons, de désobéissance de cette génération du désert. C'est un sujet pour lui-même, encore une fois. Vous savez que, surtout en français, à cause du pastiche chrétien du récit biblique, quand on parle de la génération du désert, on parle de la génération perdue. Je vous ouvre une petite parenthèse là. Il faut un peu nuancer. Lorsque le Talmud parle de la génération du désert, ça n'a pas du tout cette connotation de la génération perdue. Au contraire, c'est une génération qui est appelée une génération de géants. Elle est appelée dans le Talmud et dans le Midrash d'Ordéa. Ça veut dire la génération qui a été appelée à la connaissance. Mais parce que la connaissance était encore anticipation hâtive, c'était trop tôt, pas préparé, mal reçu, mal digéré, mal vu. Et il faut savoir que cette génération a vu les miracles et a entendu la révélation de la loi. Et bien, ils ont mal vu, ils ont mal entendu. Mais, et c'est surtout Judas Lévi qui l'a expliqué dans le Kuzari, leur faute doit être comprise à la hauteur où ils étaient. Je ne sais pas si c'est clair, quand même, c'est suffisamment clair. Et alors, tous ces petits commentateurs qui se prennent des airs de modernes, rehaussés ou surhaussés, et parlant avec mépris de la génération des... Il faut nuancer. Je ne sais pas si c'est clair, quand même. Bon. En particulier, prenez le dernier mot, d'Isahab. D'Isahab, c'est un endroit qui est appelé d'Isahab. Ça se trouve dans la presqu'île du Sinaï. Les Arabes appellent ça Dahara. Vous voyez à peu près où c'est. Il y a eu une...
On est passé.
Un mon cher. Il a fait. Et alors, d'après la tradition, c'est là-bas que s'est passée la faute du Vaudor. Et voilà comment le Midrash explique. Dieu, Sira, Moïse dit à Dieu, c'est parce que tu leur as donné trop d'or qu'ils en ont eu assez pour en faire un veau. Si j'ai dit. Mais dit Zahab, ça se lit Dai Zahab. Voyez à peu près un exemple. Ça, c'est les plaidoyers de Moïse. Aharasa Yom et Horeb, 11 jours à partir du Horeb, la montagne du Horeb, c'est la montagne du Sinaï. S'il n'y avait pas eu ce détour de 40 ans au désert, il suffisait de 11 jours pour aller d'Égypte à Jérusalem, pas au Sinaï. Okay. C'est-à-dire, c'était une pérégrination qui a pris 40 ans. Pour séparer la génération de la préhistoire de la génération de l'histoire qui commence par cette vacuité, ce néant du désert entre deux civilisations, celle de l'échec du monde égyptien et celle qui commence avec Israël, alors que si cette génération de la sortie d'Égypte en avait été capable, il suffisait de 11 jours de marche, entre Israël et l'Égypte. Ça, on l'a vu à la guerre des 6 jours, il y avait même moins que 11 jours de marche. Quand Sharon a décidé de mettre le... je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui. Non, je ne voulais pas dire ça. D'attaquer, ça rime. Vous savez qu'il y a une allusion à... il y a un verset où il y a 5 mots qui se suivent qui commencent par Aleph. Dans la Torah. On fait un comment on appelle ça ? Oh, j'ai oublié. C'est jeu de sur la Bible. Hein. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Hein? Chidon. Il y a un verset où il y a 5 mots de suite qui commencent par Aleph. Yafé. Amar Proyev. Erdov. Asig. Achalek. Shalam. Arik. Harbi. Oui, c'est ça la Bible. Arik, c'est Harbi. Vous comprenez en hébreu ce que ça veut dire? Alors, et c'est vrai, et c'est moins que 11 jours au temps de Arik. Ça y est, le titre est arrivé. On continue. Derech Har Seir, à travers la montagne de Seir, Ad Kadesh Barnea, jusqu'à Kadesh Barnea. C'est très explicite. Vahi, et il arriva, Be'arba'im Shana, à la 40e année, Be'ashte Asar Chodesh, au 12e mois, Be'echad Lachodesh, au 1er du mois, nous sommes donc le 1er de Hadar, de la dernière année des 40 années. Diber Moshe El Béni Israël, Moïse a parlé aux enfants d'Israël, Kecho Lacher Tziva Hashem Oto Alehem, selon tout ce que Dieu avait prescrit à lui pour eux. Mais nous avons tout de suite la réponse. Hein? Le verset est très clair. C'est pourquoi je me suis toujours étonné à quel point cette question revient chez les commentateurs eux-mêmes. Okay? Est-ce que Moïse aurait dit par lui-même ce cinquième livre? Le texte est très clair. Ce qu'il faut expliquer, c'est le changement de style. Pourquoi il parle à la première personne? Mais le fait que ce soit mis par écrit, par révélation de Dieu, ce cinquième livre lui-même, le verset l'a dit clairement. Alors reprenez votre verset 3, surtout la fin, on lit ensemble. Diber Moshe, El Béni Israël, Kechol Asher Tziva Hashem Oto, allez. C'est clair? Oui? Question là-dessus? Bon, alors nous allons étudier un texte qui, précisément, va entrer au fond de cette question. Mais la question est claire, oui? Tout le monde a... Alors, vous avez tous un papier? Tu n'as pas toi? Regarde, il en reste? Bon, que un suivre sur deux, et puis on fait. Alors voilà, j'ai tenu à vous faire photocopier la page de garde du livre qui s'appelle Gilgul Zahav, qui est un commentaire sur la Torah, fait par le Rav David Moshkovitz, qui était un Rav de Roumanie. Parce que ça a été un des livres de chevet du Rav Kook, Zichrono Livracha, je l'ai étudié avec lui, et c'est la raison pour laquelle je l'utilise assez souvent, et que son nom soit rappelé. Alors on va lire, lentement, phrase par phrase. Maktiv le Mala, qu'est-il écrit plus haut? C'est-à-dire, le Rav nous renvoie au dernier verset du livre de Vemidbar que je vais vous lire. Il est écrit plus haut, vous avez d'ailleurs le texte. Et les Hamitzvot, voici les commandements, vers Mishpatim et les lois, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné, Beyad Moshe. Littéralement par la main de Moïse, ça veut dire par l'intermédiaire de Moïse. En hébreu, Yad, ça veut dire à travers. Hein? Beyad, Aliyad. Petite parenthèse linguistique. J'ai remarqué une chose, mais je n'ai jamais eu le temps de vérifier. S'il y a parmi vous des férus de grammaire ou de linguistique, essayez de vérifier ça. J'ai remarqué que le mot de maintenant traduit l'hébreu littéralement, miyad, maintenant, miyad. Alors, je ne sais pas, ça sort peut-être de l'école de Rashi. Il y a beaucoup de choses d'idiomes français qui sont des traductions littérales d'expressions talmudiques. Par exemple, entre chien et loup. Entre chien et loup, ça vient du Talmud. Ben Zeb, Ben Kelev le Zeb. Quand on se pose la question à quelle heure le matin, on peut déjà dire le Kriyat Shema, une des réponses, c'est quand on arrive à distinguer entre un chien et un loup. Ça, il faudrait étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Stam, une image littéraire. Hein? Entre le même animal, s'il est sauvage et s'il est domestique. Bon, ça, on étudiera peut-être un jour. Ou bien, je vous donnerai une autre expression qui m'a beaucoup frappé. C'est tête bêche. Je crois que je vous en ai parlé un jour. L'expression tête bêche. Je vous mets une petite parenthèse. Nous avons dans la Kabbalah 70 alphabets différents de l'alphabet hébraïque. Vous lisez péniblement l'alphabet des classes enfantines de Bar Ilan, Ramat Gan, vous savez, la hauteur. Hein? Gan. Et alors. Non, c'était méchant, mais vrai. Et alors, un de ces alphabets consiste à mettre le Tav à la place du Aleph, le Shin à la place du Bet, et s'appelle Atbash. C'est tête-bêche. C'est clair? Bon, et il y a d'autres exemples, mais enfin, c'est pas le sujet, je reviens au sujet du coup. Et alors, pourquoi j'ai cité ça? Ah oui, Mia de Aya. Donc, alors je reprends le verset de la fin de Bemidbar. C'est donc le verset 13 du chapitre 36 dans Bemidbar. Ele amizvot v'amishpatim, asher tziva Hashem beyad Moshe, que Hashem a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, el bene Israël, vous l'avez le verset, hein, aux enfants d'Israël, be'arbot Moab, dans les plaines de Moab. Il faut vous dire qu'il y a trois niveaux de la révélation de la Torah par Moïse. Il y a la révélation qui s'appelle Mi-Sinaï. Il y a la révélation qui s'appelle Be'oel Moed. Et la révélation qui s'appelle Be'arbot Moab. Alors, je traduis rapidement, mais les mitzvot sont mises soit de façon explicite, toutes les mitzvot, soit elles sont dites Mi-Sinaï, et apparemment, on est familier à ce que les dix commandements sont Mi-Sinaï. Mais il n'y a pas que les dix commandements. Soit la révélation Be'oel Moed, lorsque le peuple a été puni des fautes, en particulier la faute du veau d'or, la révélation n'a plus été publique comme elle a été pour les dix commandements sur la montagne du Sinaï. Elle a été réservée de Dieu à Moïse dans le Ohel Moed, qu'on appelle la tente d'assignation. Vous voyez à quel texte ça se réfère. Et lorsque, à la fin des 40 ans, Moïse est arrivé aux plaines de Moab, devant le Jourdain, les dernières mitzvot et la récapitulation du cinquième livre sont dites Be'arbot Moab, dans les plaines de Moab. Il y a une suite à la révélation dans les plaines de Moab, qui pourra le dire? C'est quel livre de Nagafé, qui a dit Ruth? Très bien. Ruth, effectivement, reprend la révélation aux plaines de Moab. L'histoire de Ruth se passe à Moab. C'est très bien. Et comme par hasard, Ruth, on le lit à Shavuot. Vous avez remarqué cela, okay? Comme par hasard. C'est pas par hasard, pas d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit comme. Bien. Et alors, il y a trois niveaux de révélation. C'est un sujet pour lui-même, je voulais vous le signaler. Mais il y a plus. Ça, c'est le dernier verset du livre de Bemidbar. Le dernier verset du livre de Vaïkra dit ceci. Vous ne l'avez pas la cité. Verset 34 du chapitre 27. Et les hamizvot, asher tziva Hashem, et Moshe, el bene Israël, be'ar Sinaï. Voici le commandement que Hashem a ordonné à Moïse, el bene Israël, pour les enfants d'Israël, be'ar Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Donc, toutes les mitzvot qui sont sous la cotérette, sous le titre de ce verset, sont dites du Sinaï. Pas seulement les dix commandements. D'autre part, certaines mitzvot sont reprises à Arbot Moab, dans les plaines de Moab, et en particulier le livre de Devarim. C'est très schématique ce que je vous ai dit là, mais retenez qu'il y a ces trois niveaux de révélation, et chaque fois, c'est la révélation de Dieu à Moïse pour les enfants d'Israël. Et donc, encore une fois, le problème n'est pas est-ce que le livre de Devarim est révélé ou pas. Le problème est pourquoi Moïse parle à la première personne dans le livre de Devarim. C'est clair pour ce que vous remerciez. Et je veux revenir un peu sur le dernier verset du livre de Vaïkra, que vous n'avez pas sous les yeux, mais je vais vous le relire en hébreu et le retraduire pour expliquer une expression du verset. Et les hamizot, pas du livre de Devarim, du livre de Vaïkra, hein, voici les commandements. Asher tziva Hashem et Moshe, que Dieu a ordonné à Moïse. El béni Israël, au sujet des enfants d'Israël ou pour les enfants d'Israël. C'est plutôt pour les enfants d'Israël, c'est plutôt cela, au sujet des enfants d'Israël, parce que si c'était pour, il y aurait l'Ibné Israël, ce qui est une expression qui existe aussi. Je reviens sur l'expression Asher Tziva Hashem et Moshe. Là aussi, il y a deux expressions possibles. Si c'est trop hébreu, interrogez-moi si c'est pas suffisamment clair. Il y a l'expression Asher Tziva Hashem et Moshe, avec le « et » qui introduit le transitif, le complément d'objet transitif, il y a souvent aussi « Asher tziva Hashem el Moshe ». Vous voyez, j'écris le tableau, c'est pas la peine. « Asher tziva Hashem et Moshe » ou « Asher tziva Hashem el Moshe ». Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces deux expressions? Si il y a la préposition « et » ou si il y a la préposition « el ».
C'est direct.
Ah, j'entends pas un seul à la fois, Ephraim.
Hermoché,
c'est indirect. Oui, comme dirait Magui, au revoir. C'est parallèle, mais quelle est la différence? C'est parallèle, mais vraiment que parallèle, hein, c'est parallèle. Ça veut dire quoi? C'est joli, mais pas ici. C'est très joli, mais pas dans le chat.
Non?
Mais dans les deux.
Les deux.
Non, la question porte sur un autre point.
El Moshe, je crois que lorsque la Mitzvah s'adresse à lui, elle est pour lui, alors que El Moshe, c'est pour son frère.
Regarde bien le verset. Il désigne des mitzvot qui sont pour tout Israël. Il s'agit des Targamim. Bon, je vais vous dire la réponse.
Est-ce que El Moshe pourrait être compris dans le sens de il?
Ça va un peu dans ce que monsieur a dit. Mais pas ici. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tout ça, c'est drache, c'est pas pchache.
La différence, à mon avis, c'est que quand Moshe ne connaît pas,
ça, c'est de la poésie.
C'est pour
les... Non, ça, c'est de la littérature. Non, écoutez, je vais vous poser une question.
Je voulais dire, vous, dans le sens que ça pourrait justifier que je ne suis pas la zone
d'affaires. Ah non, 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 non. Dommage, le début, c'était bien. Quoique, j'ai parlé trop vite, laissez-moi réfléchir, mais ce n'est pas dans ce verset. On va rattraper ça. Je vais vous poser une autre question qui va peut-être éclairer la première. Vous avez les deux expressions suivantes aussi. Tzav et Bene Israël ou Tzav el Bene Israël. Quelle est la différence? Bon, alors j'ai réponse.
Je traduis les deux phrases.
Pars plus fort.
C'est le même et
comme il a dit, on verra. Hein.
Si je traduis les deux phrases, j'obtiens la chose suivante. Tzav et Ben Israël ordonne les enfants d'Israël, mettre en ordre. Si je traduis et Ben Israël, c'est leur donner aux enfants d'Israël.
Oui, et bien c'est
le
très.
Le et oblige celui qui entend à se mettre en ordre pour comprendre ce qu'il doit.
Pourquoi tu ajoutes un commentaire? C'est toujours dangereux, parce que commentaire, ça peut se lire en deux mots. Comment t'es? ce que tu as dit au début, c'était exact, mais avec un peu trop de dentelle. Mais c'est exact. Il faut traduire chat directement. Voilà. Je vais vous prendre l'expression en français. Donner un... Attendez. Attendez, le mot m'échappe en français, mais il faut qu'il me revienne. Parce qu'ici, le français peut aider. Non, comment on dit? Je ne voudrais pas employer le mot de ordre. Ah, non. Voilà. Le mot de instruire. Instruire quelqu'un ou lui donner des instructions. Voilà, c'est ça la différence. Notez-le, parce que j'ai envie d'oublier. Alors, Sav et Béni Israël, transitif, direct, c'est instruire les enfants d'Israël de telle sorte qu'ils sachent comment réagir quand il faut réagir. Donne des instructions, ça veut dire ne tiens pas compte qu'ils sauront ou pas réagir. Dis-leur, Bédiou, quelles sont les ordonnances comme un garçon de pharmacie doit les réaliser. Vous voyez la différence? C'est une différence énorme. Sav et Béni Israël, donne-leur une formation telle. Éduquer de telle sorte qu'ils sachent comment réagir. Tandis que donne-leur des ordonnances, donne-leur des instructions, c'est deux pour ouvrir les guillemets. Et puis, Choufanaour, et comment on fait? Il n'y a qu'à rentrer dans une cuisine de femme pure le vendredi, vous voyez comment ça se passe. Okay? À la lettre. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay? C'est très différent. Et c'est un problème de fond. Avant de donner la Torah explicitement en 613 mitzvot, Moïse avait reçu une consigne générale pour Israël. Toute la Torah dans une seule consigne. Laquelle? Vatem. Vatem, plus fort. Voilà. Reprenez le chapitre 19 de l'Exode. Avant qu'on sache, et on ne sait pas encore qu'il va y avoir révélation d'une Torah explicite, un code, il y a un verset, où, chapitre 19 de Shmot, où Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas leur dire. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Ele advarim asher tedaver el bnei Israël. Nekuda. Et vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et on ne sait pas encore ce qui se passe au chapitre 20. Et là, le peuple répond en disant, tout ce que Dieu dit, nous ferons. Et Moïse rapporte cette réponse à Dieu en expliquant, ils ont dit que Dieu le dise. C'est clair ? Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un projet d'identité pour Israël au Sinaï, qu'Israël devienne un peuple de prêtres et une nation sainte, et ça veut dire quoi ? Un peuple de prêtres et une nation sainte pour le reste de l'humanité. Et c'est un peuple de prêtres. Donc, et alors, la question est très importante. Si vous savez comment fonctionner comme prêtre, c'est bien, sinon c'est pas à vous que je parle. Et voilà, ils ont dit, ben, on veut entendre Dieu le dire. Alors Dieu s'est révélé pour donner la Torah, ça veut dire le code, le mode d'emploi d'être peuple de prêtre et nation sainte. Et c'est ce à quoi on fait allusion dans la Gada de Pessah, dans le Dayenu. Ilu kerevanu lifnei har Sinai, venu natalanu et la Torah Dayenu. Comment traduire ça ? Si nous avions approché du Sinaï, et ne nous avait pas donné la Torah, ça aurait dû nous suffire, Dayenu. Et qu'est-ce qu'on serait allé faire au Sinaï ? Justement, entendre ça, être approché du Sinaï, ça veut dire, Mahamad Arsinaï, savoir que vous êtes appelé à être le peuple de prêtre des autres nations. Mais on n'avait pas été capable de savoir comment ça fonctionne. Ça aurait dû nous suffire. En plus, on a eu un cadeau, la Torah. Et ça s'appelle Matan Torah, la Torah comme code. Ça y est, c'est clair ? Réfléchissez bien à ça, parce que ça explique cette difficulté de ce chant de Dayenu. Vous savez qu'il y a des orthodoxes antisionistes qui utilisent ça, je ne veux pas vous donner de citation, on ne cite pas les grands chez eux, qui utilisent ça pour la fin de Dayenu. Ilu natalanu et atora velo kerevanu l'Eretz Israël Dayenu velo ichnisanu l'Eretz Israël Dayenu. Vous avez énormément de rabbins, j'allais dire anti-juifs, anti-sionistes, qui se servent de ça, comme ça, en disant, si nous avions donné la Torah et ne nous avait pas fait rentrer en Eretz Israël, ça nous aurait suffi. Vous voyez comment on sait lire, quand on ne sait pas lire. C'est clair ? Bon, alors réfléchissez bien au problème. L'exemple que je donne pour cette explication que je viens de donner, savent être, forme-les, et s'ils ne savent pas comment fonctionner, c'est que ce n'est pas eux. Maintenant, ici, ils ne savent pas cadeau. Dis-leur, donne-leur les instructions. Vous voyez la chute de dignité d'une certaine manière. L'exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est le manuel des pompiers. Et ça me rappelle, quand j'étais soldat français, parce que je fus, ça me rappelle le manuel du soldat suisse. De quoi sont les pieds ? Les pieds sont l'objet d'un soin incessant. Je vous cite. Vous savez pas ça ? De quoi sont les pieds ? Question de l'adjudant. Il fallait répondre, les pieds sont l'objet d'un soin incessant. Manuel du soldat suisse. Vous voulez que je vous l'apporte ? Et puis il y en a comme ça, des quantités. Bon. Et alors, imaginez un manuel du pompier où on commencerait par dire, premièrement, sache que le feu brûle. Deuxièmement, sache qu'avec de l'eau, on éteint le feu. Alors, c'est que ce n'est pas un pompier qu'on parle. Ça y est, c'est clair ? Alors, voilà de quoi il s'agit. Tzav et. Et si on ne peut pas, alors tzav el. Voilà, je voulais mettre ça en évidence. Ça y est, c'est clair ? Alors, vous voyez que chaque nuance de chaque verset a une grande importance. Et ce n'est pas pour rien que c'est formulé comme ça ou autre. Alors, on revient à notre texte. Celui-là. Martin le Marla, qu'est-ce qu'il est écrit plus haut ? Elle est à Mitzvot Asher Tziva Hashem el Bnei Israël, Biyad Moshe, Be'arvot Noav. Vesamachle, et il a joint au dernier verset du livre de Vemidvar, Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe. Et voici les paroles que Moïse a dites, prononcées, mais dans le sens d'Iber, Fastam. Kolmakom Shene Marele, alors ça c'est votre question. Là, c'est ta question. Chaque fois qu'un texte commence par ce sont, elle est, c'est-à-dire le démonstratif au pluriel. Zé, zot, pluriel, elle est. Il y a des versets qui commencent par ve, elle est, et ce sont, il y a des versets qui commencent par elle est. Je vous dis tout de suite la règle. Quand ça commence par elle est, en principe, ça renvoie tout ce qui précède. Elle est fait une rupture. Ve, elle est, ça rajoute ce qui suit à ce qui précède. Et voici. Et nous avons énormément d'exemples qu'on étudie qui sont importants. Alors, voilà comment le Rav va utiliser ce principe. Comme je n'ai marre les, mi'et arishonim. Amoindrit quelque chose dans les enseignements précédents. Ici, le Rav a cité une girsa. Girsa, comment on traduit girsa ? Une version très très particulière. En général, il y a pissel, annule. Mais on garde mi'et, les choses précédentes. Nira, Alpi Mahamaram, on essaiera de comprendre, cela apparaît d'après l'enseignement des maîtres qui disent El Mafsikin Beklalo. Il y a un grand enseignement qui dit que il y a deux passages dans la Torah où il y a des malédictions, des formules de malédiction s'il y a risque de faute. En particulier, il y a un long passage des malédictions dans la paracha de Kitavo, qui est dans le livre de Dvarim. Et il y a une autre texte de malédiction. Si je me souviens bien, c'est dans la parasha de Shmini, c'est bien ça? Non? De Berkotai. Alors, il y a un principe du Talmud que lorsqu'on découpe la parasha, le Shabbat, en sept parties, on n'arrête pas au milieu d'un texte de Klalot. Le texte de Klalot est lu en une fois, et en général, dans les communautés traditionnelles, je crois que ça se fait un peu partout, enfin, dans les communautés traditionnelles, on fait monter à la Torah le plus vieux de la communauté, et pas par superstition que le pauvre ne lui reste pas tellement à vivre, mais parce qu'on lui demande, à la fin de la lecture, lui, de bénir l'assemblée. Je ne sais pas si ça se fait encore dans vos communautés. Peut-être dans certaines communautés, c'est le rabbin qui descend, parce que le vieux ne sait peut-être pas lire, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, en général, c'est lui qui dit, qui bénit l'assemblée. Donc le principe, c'est qu'on n'interrompt pas dans la lecture.